multiplex spécial pour la première fois de son histoire, commenté exclusivement par des femmes, et le premier match de rugby féminin du tournoi des Six Nations. La France reçoit l'Angleterre à Grenoble. Plus d'informations, radiofrance.fr.
24 heures du sport féminin pour donner des ailes au sport.
France Inter.
La voix est libre.
Il est 15h04 tout de suite, là-bas, c'est J'y suis avec Daniel Mermet.
Commer, c'est vendredi. C'est toujours à 15h04 que je m'en aperçois, moi. Oh putain, quand je pense qu'il y en a qui attendent la fin de la semaine.
Salut Daniel et toute l'équipe. Daniel, je voulais te remercier pour ton petit texte au début de l'émission d'hier sur ton rejet des racines. Et je te remercie parce que moi aussi, je suis un bâtard de nulle part. Et le mieux, c'est que j'en suis pas fier du tout. J'en suis juste heureux. Voilà, mon pays, c'est la terre et ma famille, c'est l'homme. Et ma religion, c'est l'intelligence. Merci, merci, on se sent moins seul. Ciao.
Eh bien, je viens d'avoir un conseiller diplomatique du Vatican au téléphone. Il semblerait que le Vatican ait acheté 12 rafales à la France pour les futures guerres saintes et un EPR pour arrêter de s'éclairer à la bougie. Vive l'économie française.
Bonsoir le répondeur et bonjour aux auditeurs de 15h04. Je ne m'appelle pas Eric, mais c'est lui qui a écrit ça. Ça s'appelle l'aventure Pôle emploi. Un jeune homme brillant, fraîchement diplômé, optimiste, plein d'allant, enfin bref, motivé, se dit « Maintenant, haut les cœurs, vaille que vaille, je rentre dans le rang et je trouve un travail ». D'abord, il composa avec application de chaudes et longues lettres appréciées des patrons, joignant en police 12, impeccable, sans tache, des CV foisonnants prisés des DRH. Comme les femmes de marins face à la mer, attendant leur mari, ruisselants et austères, l'ex-étudiant ne quitta plus le périmètre, ni de son téléphone, ni de sa boîte aux lettres. Mais ses correspondants, sûrement débordés, économisèrent enveloppes, timbres et papiers. Sa hardiesse et son courage, à peine émoussés, il se dit « c'est pas grave, passons vite au plan B ». La fougue conquérante et sûre de son bon droit, il tenta sans vergogne l'aventure Pôle emploi. Après 1000 dossiers et moult formulaires, factures, quittances, nom de jeune fille de sa mère, photocopie de ci, redevance de ça, plus fiché qu'un terroriste à la CIA, rien ne vint, calme plat, silence pathétique. Il passa à la phase appel téléphonique. Une musique d'attente, Mozart, petite flûte, un robot décrocha au bout de 20 minutes. Tapez étoile et tapez dièse, tonna la voix sur bande, nous n'avons toujours pas saisi votre demande. Fatigué de supporter la conversation d'un microprocesseur sans chaleur ni passion, un rendez-vous fut pris. Non, sans mal et sans heurts, avec une vraie personne, un matin de bonne heure. Devant lui, une sorte de cerbère à chignon lui proposa quelques vacantes professions. Mais aux alimprudents me, voyez-vous plombier, garagiste, cuisinier, maçon ou boulanger avec mon doctorat d'histoire médiévale et mes 3 masters d'économie orientale? La pauvre conseillère ne faisait qu'obéir à un triste chef qui se lassait de subir des politiques creuses sorties de l'encéphale d'un conseiller ministériel à la peau pâle, appliquant des schémas théoriques et douteux sur les statistiques et des chiffres ténébreux. La fin de cette histoire nous paraîtra bien fade car le surdiplômé n'en eut pas pour son grade. Il dut se contenter comme unique boulot d'un contrat à durée limitée chez McDo. Bref, à quoi sert de cultiver des fleurs magnifiques quand on a pour tout vase que des pots en plastique? C'était Delphine de Reims.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, chers amis. J'ai une question à vous poser. À quelle classe vous appartenez? Prolo, aristo, bourgeois, petit bourgeois. Combien d'entre vous, d'entre nous, se reconnaissent aujourd'hui dans ces catégories sociales? Prolo, aristo, bourgeois, petit bourgeois. Pas grand monde, j'en suis sûr. Je suis sûr que vous êtes déjà en train de répondre, moi, à quelle j'appartiens? Ben, c'est la classe moyenne. J'appartiens à la classe moyenne. Voilà. C'est ce que les Français répondent en majorité. Une enquête de l'INSEE l'a récemment démontré. 45% des Français disent appartenir à la classe moyenne. Alors, bien sûr, il y a des nuances. Il y a la classe moyenne plus, la classe moyenne moins, plus plus, moins moins, mais moyen. Et pourtant, on le sait, on le voit, on le vit. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a cette minorité qui a tout et qui fait pas grand-chose, et puis il y a cette majorité qui se partage le reste et qui fait tout le boulot, on est d'accord là-dessus, la fracture est évidente, c'est un cheval et une alouette, il y a une alouette en haut de l'échelle, et puis un cheval en bas. Le cheval a toute la force, mais il ne s'en sert pas, et l'alouette en haut se marre avec son jet et sa Rolex. je suis en train de décrire la lutte des classes, vous aviez déjà compris. Pour tout le monde, il y a effectivement une lutte de classes, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, il y a lutte de classes, mais personne ne s'identifie à une classe. On aurait comme un problème d'identité sociale. C'est de ce constat qu'est parti Olivier Besancenot, oui, le facteur, le NPA, etc., pour écrire son livre intitulé « La conjuration des inégaux ». Alors les plus malins disent « Ah, la conjuration des inégaux, mais attends, ça c'est Babeuf, c'est Gracchus Babeuf, et c'était la conjuration des égaux ». Et oui, à l'époque, Révolution française, on rêvait d'égalité, enfin, du moins, certains rêvaient d'égalité. En l'occurrence, Gracchus Babeuf, ça lui a valu de se faire couper la tête. Aujourd'hui, selon Besancenot, c'est plutôt les inégaux, les inégalités qui l'emportent. Et c'est pas seulement le point de vue de Besancenot. Alors au moment où le toboggan a l'air d'entraîner tout le pays vers la droite et vers le fin fond de la droite, il nous a semblé qu'un peu de gauche pouvait aérer un petit peu les choses. C'est notre sujet du jour en tout cas, Olivier Besancenot, la conjuration des inégaux. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse où j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Oui, salut Daniel, salut à toute l'équipe de la basse où j'y suis. J'avais une petite question, je voulais savoir si vous aviez fait ou prévu de faire une émission sur le grand marché transatlantique, petit traité libéral qui se négocie apparemment dans une certaine opacité entre l'Union européenne et les États-Unis en ce moment. Ça a l'air plutôt chaud. Voilà, je vous remercie.
La Bretagne a connu des problèmes de consanguinité à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ses plus belles villes ont été rasées durant la Seconde. Les rivières sont polluées. L'eau du robinet n'est pas potable. Les marées vertes s'étendent. Paris, c'est aussi l'impunité de Total et de ses bateaux poubelles. Les emplois sont malsains, usants, sous-payés. Le patronat peut désormais verser des salaires roumains. Qu'a fait la démocratie française du non au référendum européen ? La référence à une poignée de barrés qui ont collaboré avec les nazis est facile et pratique. Mais en Bretagne, il n'y a pas de mairie FN. Et les Bretons se mobilisent lorsque la police vient rafler dans ces écoles. Anthony, de Douarnenez.
Bonjour à tous, ici c'est Fanchin Quimper, Daniel Mermet. Merci d'avoir fait connaître l'Institut de Locarno français, et donc aux Bretons moyens que nous sommes. C'est-à-dire 99% de la population si on enlève les élites et les assistés. Merci d'avoir montré que le mouvement des bonnets rouges n'est pas un mouvement spontané. La Bretagne est en crise, oui, comme beaucoup de régions françaises et de régions au monde. On peut comprendre que des salariés licenciés se soient raccrochés à des patrons paternalistes, mais il ne faut pas qu'ils oublient que cette crise est née de l'imprévoyance de ces mêmes patrons. Comment peuvent-ils croire que la solution est dans l'ultralibéralisme ? Dans aucun pays au monde, les humains que nous sommes n'ont bénéficié de ce modèle. Merci aussi, Daniel, d'avoir permis à d'autres opinions de s'exprimer, à Françoise Morvan, à René Louaille. Des solutions alternatives à l'ultralibéralisme et au bolchevisme existent. Salut.
Ici l'ombre, les insoumis parlent aux insoumis. Quelques nouvelles du jour. 9h15, un banquier dénonce son client sans papier aux autorités. 13h, les banques, après avoir touché des milliards d'euros publics, annoncent des milliards de profits privés. 23h, le salarié d'une agence bancaire, à cause du boulot, pète un plomb et prend une arme. Message personnel. L'extrême droite sort de sa planque et se frotte les mains. Deux fois, elle se frotte les mains. Le Fouquet sponsorise aussi la gauche caviar. Je redis, le Fouquet sponsorise aussi la gauche caviar. Appel à la résistance. De l'Europe au Maghreb, de la Grèce à l'Égypte, le peuple voit rouge. L'ombre des révoltes plane sur la crise, car résister, c'est exister. Ils divisent pour mieux régner. Mais nous sommes le nombre immense qui ne connaît pas sa propre force.
Il n'y a pas l'espèce des militants, la corporation des militants, et puis le restant de la population. Il y a une population qui est exploitée, qui est opprimée, qui potentiellement, à un moment ou à un autre, peut se révéler.
Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Alors, qui peut être cette majorité?
Mais ce que je dis, c'est qu'elle est sous nos yeux. Le prolétariat est sous nos yeux. Il n'a jamais été aussi important. Et du côté des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, ça bégaye pour le dire.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis, avec Olivier Besancenot, la conjuration des inégaux.
Flight number 2, arriving from New York.
Ah, on va commencer par, on va faire chic. On va évoquer Paul Valéry. La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Paul Valéry. Pourquoi je parle de Paul Valéry? Parce que d'abord, mon invité aujourd'hui cite cette phrase dans son bouquin. Et cet invité, c'est Olivier Besancenot. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Besancenot, qui publie au Cherche Midi un bouquin intitulé « La conjuration des inégaux ». L'idée fixe de Besancenot, mais c'est une idée fixe qui est déjà ancienne, c'est que le citoyen ordinaire, vous et moi, nous nous intéressions plus à ce qui nous regarde, c'est-à-dire, en l'occurrence, la politique. Et le bouquin s'intitule « La conjuration des inégaux », ce qui va faire d'une partie des auditeurs des babouvistes. Voilà, vous allez devenir des babouvistes, man, vous le saviez pas. Vous allez devenir, pas tous, hein, mais des babouvistes. Babouvistes comme Babeuf. Et pourquoi Babeuf? Parce que Babeuf, Gracchus de son prénom, était le leader, l'animateur, le protagoniste d'un mouvement qui s'appelait la conjuration des égaux. Et c'était pendant la Révolution française, ça lui a valu de se faire raccourcir, de se faire étêter le Gracchus Babeuf, mais c'est étonnant à quel point ces idées, ce mouvement est d'une fraîcheur extraordinaire, ça ressemble à beaucoup de choses qu'on a vécues ou au moins qui font référence et dont on rêve et dont vous rêvez à travers ce bouquin. Olivier. Sauf que là, le titre est à l'envers, c'est les inégaux, c'est pas la conjuration des égaux, c'est la conjuration des inégaux. Vous commencez par citer l'humanité, ce qui est gentil de votre part.
Par rancunier.
Pas rancunier du tout. Et vous citez un sondage publié dans le journal L'Humanité en janvier 2013. À la question « Estimez-vous qu'en France, à l'heure actuelle, la lutte de classe est une réalité ?» 64% des Français répondent favorablement. Alors là, Olivier Besancenot est fou de joie. Il se dit « C'est reparti pour un tour. » Là, il y a tout ce qu'il faut. Vive la lutte de classe. Sauf que, à la question suivante, « À quelle classe appartenez-vous »« Estimez-vous appartenir à l'une des deux classes ?» 56% seulement estiment appartenir à une classe. Et les autres, non, se voient pas, ne se situent pas dans cette vision de la société. Or, dans cette situation de s'estimer appartenir à une classe, en 1964, dites-vous au passage, c'était 61%. Alors, il y a une contradiction, là, de départ, qui vous étonne. La lutte des classes, ça existe, mais... moi, je sais pas, je me vois pas appartenir à une classe. C'est ça la contradiction de départ.
C'est ça, c'est
point de départ de ce bouquin.
C'est la contradiction fondamentale, mais qui a évidemment plein de répercussions sur tous les sujets d'action, de mobilisation sociale ou politique finalement. Mais c'est la contradiction majeure. C'est-à-dire que il y a même une progression de la compréhension de la lutte de classe comme une réalité. Par rapport même il y a 40 ans, ce qui est en effet une surprise, mais pour la simple et bonne raison qu'on a conscience qu'il y a une lutte de classe, probablement parce qu'on est en train de la perdre, plus que de la gagner en ce moment. Et en revanche, le sentiment d'appartenance de classe est en régression, et ça renvoie à une contradiction plus profonde, et c'est l'objet en général de discussions régulières dans des réunions militantes, avec notre public, des discussions avec des sympathisants. C'est qu'au sens marxiste du terme, les prolétaires, ceux qui vendent leur force de travail manuelle et intellectuelle, n'ont jamais été aussi nombreux dans l'histoire du capitalisme. C'est-à-dire quand Marx fait ses premiers travaux, quand il y a la première internationale, quand il y a toutes ces irruptions sociales et politiques, l'effervescence des idées socialistes, le prolétariat comme sujet politique... est extrêmement minoritaire, en voie de développement, mais extrêmement minoritaire. Aujourd'hui, dans l'histoire du capitalisme, jamais avec l'industrialisation, avec l'urbanisation, jamais le prolétariat, quel que soit le terme qu'on lui donne, à la limite c'est secondaire, n'a jamais été aussi nombreux, et il n'a jamais eu aussi peu conscience d'exister.
Warren Buffett, CNN, 25 mai 2005. Il y a bien une guerre des classes qui dure depuis plus de 20 ans, et c'est ma classe qui a gagné. C'est nous qui avons vu nos impôts baisser considérablement. Si vous prenez les 400 plus gros imposables aux États-Unis, en 1992, date à laquelle commencent les chiffres, leur moyenne était de 40 millions de dollars de revenus par personne. Ces dernières années, la moyenne des revenus pour les plus riches est passée à 227 millions de dollars, plus de 5 fois plus. Et au cours des mêmes années, leur part d'imposition est passée de 29 à 21% de leurs revenus. Alors, s'il y a bien une guerre des classes, c'est la classe des riches qui a gagné.
Il y a des gens qui ont une conscience de classe très précise et très aiguë, qui ne sont pas ceux que l'on croit. Vous citez Warren Buffett. Et Warren Buffett dit, mais bien sûr qu'il y a une lutte des classes, mais c'est la nôtre, c'est la mienne, dit cet ultra-milliardaire américain, c'est la mienne qui est en train de gagner. Hein. Voilà. Donc il a parfaitement le sens de la classe, de son appartenance de classe et de cette lutte de classe. Et je pense que ceux que vous avez servi si longtemps, cher Olivier Besancenot, en tant que facteur... Parce que je sais que maintenant vous êtes dans une autre poste, vous êtes au guichet maintenant, c'est ça, dans une autre poste. Mais ceux-là ont tout à fait, les quartiers dans lesquels vous avez travaillé longtemps, à Neuilly, ont parfaitement le sens de leur classe et de la lutte des classes.
C'est absolument vrai, c'est-à-dire que dans ces milieux-là, dans cette petite minorité, je pense qu'on peut décerner la palme, le grand prix du marxisme au XXIe siècle. Parce que plutôt que d'en débattre, l'applique, la pratique, ça ne fait pas débat. C'est simplement une mise en musique quotidienne, régulière, assumée, alors revendiquée à l'extrême, comme Warren Buffett, sous forme de provocation, mais même plus récemment, j'ai vu que Servan Schreiber avait écrit un livre en disant « Les riches ont gagné », voilà, en donnant toute une série d'éléments plutôt justes, d'ailleurs, d'un certain point de vue. Alors, ils n'ont pas gagné, pour l'instant, ils gagnent. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est intéressant. Alors, là-dessus, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de nos amis sociologues, les Pinson-Charlot, qui ont étudié de près les us et coutumes de cette classe sociale. Et d'ailleurs, eux l'ont rappelé dès le début, en disant s'il y a bien une classe qui existe en tant que telle, c'est la classe des riches. Et c'est souvent une leçon de chose en termes de condensé, de pratiques solidaires, de pratiques unitaires, de pratiques de classe. Donc la première partie de mon livre, c'est de rentrer un peu dans le détail de cette bonne piqûre de rappel, de dire que si la lutte de classe paraît désuète pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'exploités, d'opprimés, elle est d'actualité en tous les cas pour le camp d'en face.
Désuète, c'est ça, parce que quand on dit lutte de classe, on a tout de suite en tête l'image, alors du gros capitaliste avec son chapeau au birflet, son gilet, sa chaîne de montre et son cigare, et puis en face, le prolo en bleu, dessiné par Fernand Léger, musclé, etc. Et puis voilà, cette image, beaucoup en ont la nostalgie, mais on dit, bon ben voilà, ce monde-là, cette lutte-là, cet affrontement-là est aboli aujourd'hui, les riches sont toujours riches, d'abord, ils sont très minces. Hein? Ils sont très minces maintenant. Mmh. C'est plutôt les pauvres qui grossissent. Absolument. À cause de la malbouffe. Et la classe ouvrière qui avait les moyens. C'était un temps où les riches avaient besoin des pauvres. Quand on évoque ce mot-là, on dit ben voilà, c'était le temps où les riches avaient besoin des pauvres d'ici. Maintenant, c'est les pauvres d'ailleurs, quand ils ont besoin. Mais cette classe ouvrière, eh ben voilà, maintenant, elle a disparu, elle s'est délitée, elle n'a plus de force à l'intérieur d'un rapport de force. Cette classe ouvrière n'a plus de force. Qu'est-ce que vous répondez à ce cliché ?
J'essaie de répondre avec des éléments factuels et puis des éléments de compréhension politique. C'est-à-dire, il y a des éléments objectifs qui sont liés à l'évolution du capitalisme lui-même, qui fait que le prolétariat, la classe des salariés a objectivement changé. C'est-à-dire que on n'est plus, ne serait-ce que, pour commencer par ça, dans l'époque des grandes concentrations industrielles regroupant des milliers et des milliers d'ouvriers qui avaient quand même, en effet, certains types d'incidences sur le rapport de force, sur le niveau de combativité, d'organisation syndicale. Mais j'essaie de rappeler qu'en même temps, le prolétariat existait avant Boulogne-Billancourt, que le prolétariat du 19e siècle parisien, sur lequel se penchait Marx pour étudier de près, en chair et en os, cette fameuse classe ouvrière, c'est un prolétariat regroupé dans des toutes petites unités, ouais, d'artisans prolétaires, de deux, trois salariés, pas plus. Et pourtant, il y a une stimulation des idées. Donc l'évolution objective du salariat, du prolétariat, sa précarisation, le poids du chômage, l'éclatement géographique, ça explique pas tout. Il y a un problème politique substantiel, et le problème substantiel, c'est le problème du projet d'émancipation. C'est-à-dire qu'on paye le poids d'un échec qui pèse lourd, qui est celui du siècle politique précédent, qui s'est ouvert probablement avec la révolution russe en 1917, qui s'est refermé en 1989, dans lequel les idées socialistes, communistes, ont été discréditées durablement. C'est-à-dire, pour des générations entières, l'idée même qu'un projet alternatif au système capitaliste est encore possible, c'est une idée qu'il faut complètement réhabiliter, réinventer. La classe ouvrière industrielle, qui ne résume pas le prolétariat et qui même, selon Marx, n'a jamais résumé l'entièreté du prolétariat, cette classe ouvrière industrielle, elle n'a jamais été aussi nombreuse elle-même dans l'histoire du capitalisme. Si on prend le temps de voir au-delà de nos propres frontières, et comprendre que le mode de vie, le mode de consommation sur lequel on se repose beaucoup d'entre nous dans la société contemporaine, dans les sociétés occidentales, repose sur l'existence de millions d'ouvriers, et souvent d'ouvrières d'ailleurs, dans des grandes unités de production, que ça soit en Chine, que ça soit au Mexique, que ça soit en Égypte, avec ces grandes marques qu'on connaît. Là, c'est les travaux de Naomi Klein, par exemple, qui sont là pour nous rappeler que quand on est internationaliste, cette classe ouvrière, au niveau mondial, elle n'a jamais été aussi importante. Donc en fait, j'essaie de dire deux choses. Peut-être deux évidences, mais en les étayant par des faits, c'est que premièrement, les tenants de la société post-industrielle vont trop vite en besogne, ça ne correspond pas à la réalité du monde, et deuxièmement, le prolétariat est une notion qui a toujours été beaucoup plus large que la seule classe ouvrière industrielle, et là je crois qu'on hérite aussi, je dirais, de traditions du mouvement ouvrier qui ont été souvent formatées d'ailleurs par des organisations qui étaient liées à l'Union soviétique, stalinienne, avec une vision du prolétariat qui était forcément l'ouvrier blanc, homme, sur une chaîne de montage. Et j'ai essayé de redéterrer, par exemple, des travaux assez prophétiques, finalement, d'Ernest Mandel, qui nous expliquait que dès les années 70, à l'heure de l'informatisation, à l'heure des ordinateurs, il y aurait ce qu'il appelait, lui, ce qui l'anticipait comme la prolétarisation du travail intellectuel. Et ça, c'est super dérangeant comme idée, finalement, pour peut-être une partie de ceux qui nous écoutent, de se dire, j'ai beau être ce que je suis pas dans ces fameuses classes moyennes, cette espèce de ventre mou qui correspond à rien, et j'ai un rapport à la production qui me rapproche peut-être plus de l'ouvrier de l'industrie que finalement ce qu'on a bien voulu me faire croire.
Voilà le retour du prolo, le casse et lire le gros lourd, le franc parler qui emmerde, rien à foutre des beaux discours, le ton sec qui s'exprime, le début s'est tendu, le rang dans le tas. Défendu, l'insoumis, l'insurgé, la casse noire de l'histoire, le qu'est-ce qui a le regard froid, la force du désespoir, le sourd, le j'écoute plus, l'expigeon qui en peut plus, le fatigué du compromis, le lâche rien, le déçu, la sueur, la douleur, le dur, la peur, les chaînes, la peur, la peine, la rancœur, la haine, le cri de la canaille, le problème, la faille dans ton système, le paquet nerf de taille, le réquiem contestataire. Le poing serré, la rage au ventre. On est écossais, c'est insouciant, rien avant que la leçon rentre. Mais devant la poignée de salopards qui nous envoie au charbon, on a appris à se défendre, à répondre dans notre jargon. Oui, le ton est de guerre, le temps n'est pas à l'armistice. Il n'y aura pas de trêve, pas de paix, tant qu'il n'y aura pas de justice. Tant que leur ascenseur social empestera la pisse, on leur fera la misère, nous, nos filles et nos fils. Rien ni personne ne pourra se mettre en travers. Écoute comment résonne ici la clameur populaire. Ils sont pas prêts de nous voir avaler notre langue. Sache qu'on frappera sans relâche tant que le vaisseau tangue.
Voilà, on est avec Olivier Besancenot, La conjuration des inégaux, qui sort au Cherche Midi, la lutte des classes au XXIe siècle. On va continuer à parcourir et à évoquer ce bouquin, Olivier, mais évidemment, tous les auditeurs sont en train de se dire, mais attends, Olivier Besancenot, c'est le facteur du NPA. Alors, où est-ce que vous en êtes avec le NPA? Parce qu'ils sont en train de se poser la question.
Je suis toujours au NPA, je suis à la direction du NPA et j'y suis bien à ma place.
Et où en est le NPA dans la perspective des municipales, des européennes?
On sera présent au moment des élections municipales, alors sous nos propres couleurs ou avec d'autres. Là, on a réussi à faire des accords unitaires avec d'autres organisations, notamment du côté du Front de Gauche, puisque Lutte Ouvrière n'a pas voulu admettre même qu'il y ait des discussions, quand le Front de Gauche ne part pas avec le Parti Socialiste. Donc ce combat inlassable pour le rassemblement, là, ici, maintenant, on essaie de le faire. On sera présent aussi au moment des élections européennes, mais au-delà des élections, il y a Il y a l'urgence qui pousse un petit milieu à refaire appel à nous parce que cette gauche-là n'y va pas avec le dos de la cuillère pour faire soft. Donc il y a le temps passé des déceptions pour ceux qui avaient encore un peu d'illusions, l'envie peut-être d'en redécoudre. Et puis il y a la nécessité aussi de se recoltiner un certain nombre de questions plus profonde.
Olivier, comment vous expliquez quand même que on voit le ce qu'il faut bien appeler le succès du Front National, on voit qu'il y a un certain désarroi, j'ai employé ce mot de désarroi d'une partie de la société, d'une partie de la jeunesse, d'une partie des milieux populaires, disons aussi, qui traditionnellement vont vers la gauche dans ces moments-là. Hein. C'est la gauche, l'extrême gauche, comme on voudra, qui est là, qui répond à ces désarrois, à ces inégalités, etc. Or là, c'est pas le cas. Comment vous expliquez ce phénomène? Pourquoi ça se passe comme ça en ce moment?
Je pense d'abord que rien n'est définitif, mais pour l'instant, ça se passe comme ça, parce que je crois qu'il y a, quand il y a une crise économique, financière, qui est doublée d'une crise politique majeure, où tout peut basculer très vite, il y a une course de vitesse, ça l'histoire est là pour nous le rappeler, qui est engagée entre le mouvement ouvrier, le mouvement progressiste d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Sauf que dans cette course de vitesse, on ne part pas du même point de départ. Parce que le discours du Front National, au-delà de son idéologie raciste, xénophobe, etc., qu'on peut nous décrier, dénoncer en tant que militant antifasciste, il y a l'idée qu'en gros, on va s'adresser aux couches populaires sur l'idée de « on va changer le personnel politique ». Vous avez tout essayé, c'est tous des mauvais, bah nous on en a des bons à vous proposer, il se trouve que les bons c'est nous. Et ça, entre guillemets, c'est une solution de facilité. C'est une solution de facilité parce que on se repose sur un sentiment ambiant contre lequel nous, on lutte pied à pied en tant que militants dans le cadre du rapport de force tel qu'il est, c'est le sentiment de délégation. C'est que quand il y a autant de... Quand il y a le poids de la crise, le poids de la misère, des inégalités, du chômage, c'est plus agréable à entendre, à l'oreille, de dire « t'es claqué, t'es fatigué, bah bouge pas, je m'occupe de tout ». Et aller à contre-courant de ça, c'est dire qu'il n'y a pas de raccourci possible, qu'il ne s'agit pas simplement de changer de personnel politique, faut tout changer, y compris les institutions, y compris le programme économique, mais qu'il ne s'agit pas simplement de trouver la nouvelle bonne formule gouvernementale qui nous sortira de l'affaire. Et ça, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, c'est pas forcément audible. Pourquoi ? Parce qu'en France, notamment, on a eu des luttes collectives, les dernières en date, qui ont été défaites. Je pense notamment à la défaite sur les retraites en 2010, qui pèse dans les consciences. Et donc, je dis ça pour dire qu'il n'y a rien de mécanique, parce que si on va au-delà de nos frontières, par exemple en Grèce, on retrouve cette course de vitesse. On parle beaucoup de l'aube dorée, on a raison de parler de l'aube dorée, on n'en parlera jamais assez. Mais en même temps, c'est pour le coup la gauche radicale qui est devant. Elle ne le sera pas forcément éternellement. Mais là, c'est la gauche radicale qui a la main. Il y a une course de vitesse, et dans cette course de vitesse, l'idée de redéfinir des identités sociales, je crois que c'est une question essentielle, parce que ça, le Front National ne le fera jamais, ou quand il le fera, ça sera toujours pour se remettre à sa vraie place. Parce que quand on reparle lutte de classe, quand on est dans la pratique de la lutte de classe, ben on retombe justement sur 2010, où là, Marine Le Pen... non seulement elle n'était pas du côté de la rue, mais elle interpellait Nicolas Sarkozy pour lui dire « Qu'attendez-vous donc pour lever les piquets de grève et autres points de blocage dans les raffineries, par exemple, à l'époque ?» Ou comme en 1995, au moment de la grande mobilisation victorieuse contre le plan Juppé, ça avait été, à l'époque, un point d'arrêt réel qu'on a tous senti quelques années contre l'ascension qui était déjà réelle du Front National. C'est pour ça que c'est aussi une forme d'interpellation de l'ensemble du mouvement ouvrier, du mouvement social. Et on est dans une phase, moi je me souviens des discussions qu'on avait avec Daniel Ben Saïd, où dès le début des années 90, il expliquait qu'on rentrait dans une nouvelle période, qui dit nouvelle période dit nouveau programme, nouveau parti, nouveau mouvement ouvrier, qu'on peut pas faire du neuf qu'à partir du neuf, et qu'il faudra essayer de trouver un point d'équilibre entre l'ancien et le neuf. Du neuf, il y en a, le mouvement altermondialiste, le mouvement des indignés, des révolutions, même parfois en cours, mais qui a du mal à produire sa propre représentation politique, ses propres idées. Donc ça a du mal à poindre. Et puis du côté de l'ancien, on attendait de la recomposition politique, et c'est plutôt de la décomposition politique. Donc la phase dont nous parlait Daniel Ben Saïd à l'époque sera peut-être un peu plus longue que prévu, et il faut prendre tout ce qu'on a à prendre pour participer à ça, parce que de toute façon, on n'a pas le choix.
Là-bas, si j'y suis... Daniel Ben Saïd, mai 2009.
La lutte des classes, il n'y a pas besoin de grands discours. Hein. Il n'y a qu'à prendre les parachutes dorés, les lots parachutes, les retraites chapeaux, etc. Bon, le profit, aujourd'hui, c'est quelque chose de très concret et de très visible. Et de l'autre côté, eh ben,
ce prolétariat qui était censé avoir disparu, il suffit de voir les coups de colère. Il y a dans presque toutes les villes une petite boîte de 80, 200 salariés qui ferment là, mais dans une petite ville non universitaire, ça a des conséquences en cascade sur le logement, sur le petit commerce, etc.
Olivier Besancenossi, on a cette impression de défaite actuellement, en même temps, tout le monde fait le constat que ce qu'on a appelé le néolibéralisme, c'est-à-dire l'économie financiarisée, la finance qui domine, cette dictature de la finance, ça marche pas, ça n'a pas d'avenir, c'est toujours là, ça domine, mais culturellement ça débouche pas, socialement ça débouche pas, ce système, pour employer ce mot-là, ne marche pas, enfin ne convient pas, ne satisfait pas, frustre, fabrique des inégalités, fabrique du malheur, fabrique etc. Mais il est toujours là, il est très puissant. Et donc, d'un autre côté, effectivement, actuellement, il y a une certaine droite, voire même une extrême droite, qui avance, mais qui s'inspire complètement des valeurs de la gauche. Tout le mouvement qu'on a eu avec le mariage pour tous et tout a détroussé, volé complètement les mythes, les figures, les chansons de la gauche. Et Marine Le Pen s'inspire complètement des valeurs de la gauche pour créer ce que certains n'hésitent pas à appeler un certain national-socialisme. Mmh. C'est-à-dire que le socialisme, la gauche reste la vertu, même volée, récupérée par la droite, par l'extrême droite, ou par des mouvements réactionnaires divers et variés, c'est quand même ça qui figure la vertu.
Bah, même pour eux, c'est-à-dire quand il s'agit de s'adresser aux couches populaires, on va essayer de donner du social à un programme qui ne l'est pas, parce que quand on lit bien le programme du Front National, ça reste, même s'il y a eu des évolutions entre le programme du père et de la fille, ça reste un programme qui est pas ni droite ni gauche, mais qui est ni gauche ni gauche. Parce que quand on regarde par exemple ce que propose le Front National sur les cotisations sociales, qui vont être remises en cause, qui est quand même le fondement même du financement de la sécurité sociale, eux ils sont pour l'allègement des charges, pour l'allègement des cotisations sociales, et pour fiscaliser la sécurité sociale. Mais en effet, l'idée de devoir trouver du côté des idées sociales, ça renvoie justement aux enjeux du mouvement ouvrier. Et en l'absence d'identité politique, là pour le coup, assumée, revendiquée et partagée du côté du mouvement ouvrier, ça laisse la place à toutes les démagogies politiques. Et la question démocratique, c'est qui peut être cette majorité qui demain décidera pour elle-même et pour l'ensemble de la société. Donc cette définition.
Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Alors qui peut être cette majorité ?
Ce que je dis, c'est qu'elle est sous nos yeux. Ce que je dis, c'est jouer à Charlie, quoi. C'est trouver Charlie. Le prolétariat est sous nos yeux. Il n'a jamais été aussi important. Et du côté des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, ça bégaye pour le dire. Ça paraît tellement désuet, dépassé, ça renvoie aux échecs du passé. Du coup, on laisse la lutte de classe à d'autres. Et je crois qu'il y a une nécessité de se recoltiner des questions stratégiques, mais des questions d'identité sociale. Je recite mon ami et regretté Daniel Ben Saïd, qui évoquait, pour situer le reflux idéologique des années 90, les classes sociales comme un sujet perdu. Il faut retrouver ce sujet-là, mais dans notre camp à nous, c'est-à-dire se redéfinir une fois de plus au-delà des termes, comme ceux et celles qui produisons. Je vais prendre une bataille idéologique, mais parmi tant d'autres, mais qui ne devra pas être défendue simplement par des anticapitalistes. Quand on nous répète du matin jusqu'au soir qu'on n'est qu'un coup, nous tous et toutes qui travaillons, on est le coût du travail, on ne dépend que des investisseurs. Mmh. Mais la bataille, c'est dire qui crée les richesses. Qui crée les richesses ? On est 85-90% à les créer, on n'en voit qu'une toute petite partie sous forme de salaire, probablement la moitié en équivalence, si on reprend les travaux de Marx qui sont toujours d'actualité de ce point de vue-là. Et malheureusement, du côté, y compris des directions, des grandes organisations syndicales, pour ne pas les nommer, on est très très loin de ça. On est dans les mérites du dialogue social, du partenariat social, et derrière ça, ne serait-ce que, est-ce qu'on est le partenaire social, ou est-ce qu'on est un producteur de richesses qui est spolié, ou est-ce qu'on est exploité, ou est-ce qu'on est des salariés, ou est-ce qu'on est... Il y a toute une série de redéfinitions sur lesquelles il faut se pencher, mais pas seul, parce que c'est pas nous, au NPA, avec nos petits bras musclés, qui allons le faire, et heureusement, on n'est quand même pas les seuls à s'atteler à cette tâche-là. Mais en tous les cas, moi, j'ai eu envie de le faire.
Mesdames, messieurs et chers actionnaires, je tiens à vous dire, pute salope, enculé, couille connard, mal monté, branleur, pisseuse, garce, suceuse, que le dernier conseil d'administration que tête de nœud, sac à bite, sur de mythe, a décidé à l'unanimité. Fils de pute, enfoiré, reluqué, mal baisé, foutre des chiens, fumier de lapin, de vous saluer. Grand couillon, merde, chier, con, pine, morue, trou de cul. À jeudi prochain.
Olivier Besancenot, je me souviens de, puisque vous évoquez Daniel Ben Saïd, il disait quand on ne sait plus très bien où on en est, revenons à la base, revenons à l'indignation. Bon, là c'est vraiment énorme, c'est vraiment gros, etc. Mais enfin, ça existe bel et bien. Elle est très courante, cette indignation, hein, face aux riches, face aux grandes entreprises du CAC 40, puis qui payent pas d'impôts, qui ne payent pas les charges entre guillemets sociales, etc. Les paradis fiscaux. Enfin, cette indignation, elle est permanente. Donc il y a une conscience quand même de tout ça. C'est pas tout le monde qui accepte le système en se disant bon, moi je vais me démerder. Absolument. Tout seul dans mon coin, je vais grimper et puis voilà.
Mais ça, c'est fondamental. Je pense qu'il faut partir de ça parce que derrière ça, il y a une idée profonde qui touche à la question de l'émancipation, c'est-à-dire le vrai problème politique. Pour moi, c'est pas d'expliquer les choses que les gens ne comprendraient pas. Je pense qu'en effet, il y a des millions d'exploités, d'opprimés, qui sont absolument convaincus que le monde est injuste, révoltant, ignoble et qu'il faudrait probablement le changer. Le problème, c'est comment et est-ce qu'on en a les moyens? Et je reprends à mon compte cette idée, par exemple, qui est assez chère à Rancière, à Jacques Rancière, c'est l'idée finalement de combattre l'extériorité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de professeur, ni rouge, ni de quelconque couleur. C'est de comprendre que chacun formule de la politique. Le problème, c'est qu'on le fait dans des petites unités, séparées, et comment on le fait pour le refaire ensemble. Ça, pour moi, c'est la problématique de fond. Et donc, du coup, de rassumer certaines thématiques politiques qui peuvent nous paraître... Parce que moi, quand je discute... Quand on discute je veux dire, autour de nous, dans l'air du temps, moi, je raconte cette petite anecdote quand j'ai commencé à La Poste il y a une quinzaine d'années. C'était un collègue facteur, Christian, que j'apprécie énormément, qui vient d'une vraie culture ouvrière du Nord, qui était mineur, fils de mineur, et qui me disait, en parlant de nous, les facteurs, en disant, nous, les ouvriers. Et pour moi, qui suis militant politique, je me dis, mais nous, les ouvriers, on est facteurs, on est employés, on n'est pas ouvriers. Et aujourd'hui, on n'entendrait plus ça. Mais quelque part, il y avait cette attache à une identité sociale dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, on va parler de lutte de classe. Prolétaire, ça va paraître soit désuet, et encore désuet, c'est dans le meilleur des cas. Ça peut paraître dangereux. Et on va plus facilement, tous autant qu'on est, se définir comme salarié ou employé.
Oui,
qui, pour le coup, renvoie une position pourtant de domination qui est assez forte. Hein. On est employé de quelqu'un. On est salarié par quelqu'un. L'idée du prolétariat avait quand même l'idée de la force de travail, malgré tout. Il y avait l'idée potentielle, en tous les cas, de création de richesse. C'est pour ça que c'est pas une question de vocable et de lexique, mais c'est une question de, plus que de définition, peut-être d'ailleurs, de positionnement retrouvé individuellement, quotidiennement, et puis collectivement. Et derrière ça, c'est un vaste chantier, en effet.
En 1914, dans le Colorado, dans une ville qui s'appelle Ludlow, il y a eu une lutte particulièrement violente entre les mineurs et le patron, enfin les équipes du patron, qui s'appelait Rockefeller. Et Rockefeller avait des milices contre les travailleurs qui s'étaient mis en grève, contre ces mineurs et leurs familles qui s'étaient mis en grève. Il a fait tirer dans le tas, les mineurs ont répliqué et... ensuite, c'est la garde qui est venue, la garde nationale qui est venue et qui a tiré à la mitrailleuse contre les ouvriers. Ça a fait des dizaines et des dizaines de morts. Et Howard Zinn, dans son livre sur l'histoire des États-Unis, rappelle ce qu'avait dit Rockefeller à cette époque. L'important, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils peuvent gagner. Comment on fait pour que les uns et les autres nous comprenions que nous pouvons gagner?
Par des démonstrations concrètes. Plus que des grands discours. Nous, en tant que militants, on le sait. Les plus riches et les exploiteurs le savent également. Et ils redoutent ça, d'ailleurs, plus que tout. C'est pour ça que, dans le contexte qu'on est en train de vivre, le rapport de force se tend très vite. même sur des choses qui peuvent paraître anecdotiques. C'est-à-dire, souvent, on a, dans des entreprises du public ou du privé, des mobilisations qui se tendent très vite, parce que derrière, une question qui peut paraître secondaire se niche déjà la possible démonstration qu'on peut les battre, qu'on peut gagner. Et une des responsabilités, justement, du mouvement syndical et du mouvement ouvrier, d'après moi, c'est de mettre le projecteur, y compris sur ce qui peut fonctionner, des fois. Je parlais des luttes contre les licenciements, il y en a quand même... quelques-uns qui parfois ont réussi à gagner. Les Nestlé à Marseille, la SBFM du côté de Lorient en Bretagne.
On perd pas toujours.
On perd pas toujours. Non, moi, je raconte pas moi, je suis pas là pour raconter des flûtes. Hein. En ce moment, on a tendance à perdre plus souvent qu'on gagne, pour être tout à fait franc. Et donc là, il y a des expériences, des micro-expériences qu'on, je crois, qu'on valorise pas assez en termes de lutte collective qui portent leur lot de dignité, comme elles peuvent être racontées actuellement par cette ouvrière, par exemple, de PSA, la Gigi, qui s'est découvert, révélée dans la grève de PSA la plus récente, mais aussi dans des expériences différentes de ceux qui portent un niveau peut-être plus élevé, paradoxalement, qu'il y a un certain nombre d'années, des questions stratégiques qui sont liées à la propriété. Autour de Florange, autour, par exemple, de Fralib à Marseille, sont reposées directement la question de, bah écoutez, on exproprie les actionnaires, et puis on va reprendre à notre propre compte. C'est énorme comme idée. C'est pas simplement la lutte défensive, c'est énorme comme idée. En termes de fertilité politique, c'est un chantier qui nous attend, qui est extraordinaire.
Raison de lutter numéro 1, la fierté.
Résister.
Ne pas être un collabo.
Raison de lutter numéro 2, la dignité.
Raison de lutter numéro 19,
résister.
Là-bas, si j'y suis.
Mercredi après-midi, dans l'usine des Fralib, à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône.
11 octobre 2012.
Et là, on est sur le parking de l'usine et on va aller voir Olivier Leberquier, qui est un des responsables syndicaux de la CGT qui mène la lutte. Pour redémarrer l'activité, là, vous bénéficiez quand même de toutes les machines à votre disposition.
Bien sûr, on a un outil performant. On a plusieurs lignes de production, on en a 5 en tout, il y a les C2000, on a les Constanta, on a les Tommy, on a les Molins là-bas au bout.
Ça c'est le nom des machines.
C'est une des raisons qui justifie qu'on avait bien raison de se battre. La direction d'ailleurs joue là-dessus en nous disant que on est irresponsable, qu'on transgresse la loi, qu'on occupe illégalement les locaux. On le sait, occuper une usine c'est pas légal. Mais sauf qu'on n'avait pas d'autre solution que de faire ça pour empêcher que l'usine soit vidée. Si on ne prend pas cette décision-là, la direction aurait vidé l'usine. Et on nous aurait expliqué, bien sûr, vous avez gagné au tribunal, mais on ne peut pas redémarrer l'activité, l'usine est vide.
Et il y a encore tout, là, on est à côté des... Il y a encore tout, est prêt, en fait, les machines sont prêtes à redémarrer. Il y a encore les rouleaux d'étiquettes, les rouleaux de sachets de thé, les boîtes d'emballage. Ils entendent, tout est là, quoi. Tout le matériel est là.
Tout est prêt. On peut redémarrer, alors je ne vais pas dire du jour au lendemain.
Ça te donne le sourire.
Ouais, ça donne le sourire parce que nous, on sait qu'on sait faire, on sait qu'on peut faire. On a franchi un premier pas important. Maintenant, si on avait voulu faire un musée, on pourrait dire qu'on a gagné. Mais bon, même si c'est chiant de travailler dans le bruit, c'est quand même mieux quand les machines y tournent.
Notre usine, on la connaît, on sait qu'elle est profitable, on sait qu'elle est rentable, donc on en a fait la démonstration. À partir de là, il n'y a pas de raison économique de fermer un site comme ça. On est viable et qu'on dégagera des bénéfices pour pouvoir réinvestir dans l'entreprise, pour pouvoir la pérenniser.
Vous n'avez pas peur de vous retrouver comme un petit îlot coopératif perdu dans cette grande jungle capitaliste?
Un petit îlot par rapport à la société actuelle, peut-être, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont coopératives. Il y a plus de 50 000 salariés qui sont coopératives, donc on ne sera pas un petit îlot. Et ce petit îlot continue à grossir, augmenter ce petit îlot pour qu'il devienne une île et qu'après il devienne un pays, oui, peut-être. Pourquoi pas?
Raison de lutter numéro 1, la fierté.
Résister.
Ne pas être le collabo.
Raison de lutter numéro 2, la dignité.
Raison de lutter numéro 19,
résister.
Olivier Besancenot, vous parliez de politique et de compromis à l'intérieur des luttes et des mouvements divers et variés. Il y a une histoire que raconte Bertolt Brecht, qui est la suivante. C'est un vieil homme très pauvre qui vit très seul. Il a très peu de choses, il a un peu de maïs qui pousse, il a un vieux cheval. Et il est là tout seul dans sa maison en train de bouffer quelques graines, quelques petites choses qui lui restent. Et soudain, il y a une silhouette qui s'encadre dans la porte de sa pauvre masure. Et c'est un personnage effrayant qui arrive avec un revolver à la main qui dit « Je suis la tyrannie. Veux-tu me servir ?» Et le vieil homme le sert. Le peu qu'il a à bouffer, il lui donne. Et il le couche. Il ne parle pas. Il tue son cheval, il lui fait bouffer son cheval, il n'a que ça à lui donner. Et le temps passe, il ne parle pas. Et il a un truc dans un coin, c'est du poison. Il met du poison dans la bouffe de la tyrannie, qui est toujours là avec son revolver à la main. Et le poison fait son effet. Et la tyrannie finit par crever. Et il attrape le cadavre, il le jette, il répond... Non. Je trouve que c'est une fable qui est assez belle, parce qu'elle raconte que beaucoup d'entre nous sont compromis, sont coincés dans leur boulot, dans leurs activités, dans leurs trucs. Il y en a qui sont facteurs, par exemple, il y en a qui font toutes sortes de boulots, et ils ne peuvent pas trop faire les malins à l'intérieur du boulot. Il y a une sorte de tyrannie. Alors ils disent, bon, ben, je ne peux rien faire, je ne peux pas agir, je ne peux pas, je suis coincé. Je ne sais pas que je suis en train de conseiller aux auditeurs d'empoisonner leur patron.
Non, ça pourrait nous attirer des ennuis.
Ça pourrait nous attirer des ennuis. Mais c'est pour dire que là, on peut lutter partout où on est contre la tyrannie. C'est ce que Brecht voulait dire. Je dis ça parce qu'on entend trop souvent dans nos milieux parisiens, bobos, etc., des gens extrêmement intransigeants. Extrêmement intransigeants qui ont lu des bouquins formidables dont on parle, qui savent peut-être qui est Babeuf, Marx ou Ben Saïd, mais qui sont extrêmement intransigeants et qui ne veulent pas se compromettre et qui ne veulent pas être au coin de la rue avec des tracts et la nuit aller coller des affiches et puis se taper des réunions avec des gens pas forcément brillants, ni marrants, ni poilants, qui sont très intransigeants et qui, tant que ce ne sera pas comme je le souhaite, je ne bougerai pas et je ne me compromettrai pas. Je crois que c'est pas mal de penser à au compromis politique et historique.
Et de se coltiner à la réalité telle qu'elle est et puis de partir de l'idée que potentiellement chacun d'entre nous peut faire. Il n'y a pas l'espèce des militants, le rang, la corporation des militants et puis le restant de la population. Il y a une population qui est exploitée, qui est opprimée, qui potentiellement, à un moment ou à un autre, peut se révéler. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Et dans une grève, moi, j'en ai connu quelques-unes à la Poste et qui se terminent jamais comme on a imaginé qu'elles pouvaient se terminer au premier jour de grève, où en général, on part pour un ou deux jours et on se retrouve des fois dans des processus qu'on finisse pas, justement parce qu'on trompe sur une direction intransigeante, une tyrannie. Et il y a le paradoxe aussi de la société dans laquelle on vit, parce qu'on est tenu beaucoup plus, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les grèves, hein, et qui est vrai. On n'est plus dans les années 60 où il y avait de l'emploi, aujourd'hui il y a le chômage, on a tous des crédits, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Mais c'est à double tranchant, parce qu'en même temps, quand ce ressort la pète, c'est une charge explosive extrêmement puissante. Moi j'ai le souvenir de collègues qui par exemple prenaient pas mes tracts. Voilà, ce grand moment de solitude qui arrive de celui ou celle qui jamais ne prend le tract dans son bureau, et qui va se révéler au moment de la grève, et qui, par exemple, pour une maman, je me souviens, gréviste, postière, qui élevait ses enfants, qui ne gagnait pas beaucoup d'argent, qui les élevait seule, et qui disait, quand il y a eu un flottement, au bout d'une semaine, parce qu'une semaine, c'est très long, et qu'on a une direction qui ne négocie pas, qui a dit, bah, moi, je rentre pas comme ça. Mes gamins, ils mangent des pâtes en ce moment, mais ils savent pourquoi. Et il faut que je rentre avec quelque chose, ou je ne rentrerai plus jamais. Et on est rentré avec quelque chose. Petit, peut-être, mais en tous les cas, avec un autre regard sur nous-mêmes, et puis peut-être un autre regard justement sur l'idée que potentiellement on est tous des militants et des militantes, et que là où on est, on peut en effet mettre une petite goutte de poison quotidienne contre la tyrannie.
Merci Olivier.
Merci.
À bientôt.
1, 2, 3. C'est diablement bien fait, j'aurais jamais dit que c'était aussi chiadé. Je ne me croyais pas aussi semblable, diable. Mais il faudra bien que je m'y fasse, un de ces quatre, à la lutte des classes. Fichtre, c'est bigrement boutiqué comme un massacre à l'économe. Je ne me croyais pas aussi friable, diable. Mais il faudra bien que je m'y fasse, un de ces quatre, à la lutte des classes. Merde, nos rangs sont assez dépareillés, nos généraux soudoyés. J'ai jamais vu d'armée aussi minable, diable. Mais pourra-t-on toujours faire l'impasse, mine de rien, sur la lutte des classes?
C'était Olivier Besancenot, La Conjuration des Inégaux, un entretien de Daniel Mermet. Le livre d'Olivier Besancenot, La Conjuration des Inégaux, La Lutte des Classes au XXIe siècle, est paru aux éditions du Cherche Midi. Pour plus de perspectives sur le sujet, vous pouvez réécouter sur la-bas.org les émissions de Là-bas si j'y suis des 11 et 12 octobre 2012 consacrées au Fralib et intitulées Fralib, dans Grève, il y a rêve. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique émissions Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Alexandre Chenet et Alexandre Abergel. Au montage et à la préparation, Jonathan Duong, une émission réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer. Et c'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur?
Là, il y a les ouvriers ardoisiers de Trélazé qui viennent voir leur patron, Imerys, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la fermeture de leur entreprise.
Vous êtes ardoisier, vous?
Ah non, moi, je suis artisan. Moi, je viens en soutien à ces ardoisiers.
Ah oui. Qu'est-ce qui vous touche dans leur combat?
Qu'il y a une ressource naturelle disponible et que si ce dernier puits, ce sont les dernières mines en activité en France, des mines d'ardoise, donc si elles ferment, on n'aura plus d'accès à la ressource. D'un point de vue humain, enfin, on a besoin d'eau, on a besoin de matériaux pour construire nos maisons. C'est important qu'on puisse vivre, travailler dignement, gagner nos salaires et pas vivre de la charité.
Ça veut dire que demain, si je veux construire un toit en ardoise, je ne pourrai plus?
Ah, vous pourrez trouver des produits manufacturés, enfin de synthèse, ou des produits qui viennent d'ardoise, de Chine ou du Brésil.
Ah oui. Mais plus d'ardoise française.
Plus d'ardoise française. Hein. Ou alors, il y a encore quelques carrières, il faut le dire, artisanales en Bretagne ou en Corrèze, mais qui ont une production assez limitée et locale.
Et je peux avoir votre prénom?
Pascal.
Bonjour à tous et bienvenue devant les Invalides, où il y a une bonne centaine de personnes. Bonjour monsieur, pourquoi vous avez un casque sur la tête?
Parce que je suis un mineur d'ardoise.
Ça fait combien de temps que vous êtes mineur?
Je suis rentré aux ardoisières en 1980.
Donc plus de 30 ans.
Plus de 30 ans.
Pascal m'expliquait que la carrière, elle allait fermer.
Voilà. Et la carrière, c'est une décision, on va dire, du groupe et de la direction de chez nous de fermer cette mine. Ce n'est pas une carrière, c'est une mine. Hein. On descend quand même à 400 mètres sous terre, en sous-sol. Voilà. Donc la décision de fermeture due à la direction, hein, bien sûr, à un manque de gisement. Donc qui est complètement faux, et comme on est la dernière mine en France, on va dire, à part avec une mine de sel mais qui est dans l'Est, on est les derniers mineurs en France, voilà.
Ah oui. Mais dans l'esprit des gens, descendre à la mine, c'est un peu l'horreur, quoi. Donc c'est étonnant de voir des gens qui manifestent pour continuer à descendre à la mine, vous comprenez?
Vous ne connaissez pas bien l'esprit des mineurs. Les mineurs, c'est une corporation très fraternelle et qui a toujours, avec un métier qui est peut-être dur, mais aussi qui compte beaucoup. Et je pense que dans nos régions, enfin les régions minières, c'est aussi un patrimoine qui se transmet de génération en génération. Donc les mines en Anjou, dans le Maine-et-Loire, ça a fait vivre des milliers de familles. Ça a fait vivre mes grands-parents, ça a fait vivre mes arrière-grands-parents.
Vous n'avez pas dit ça a fait vivre mes parents. Vos parents, ils ont fait autre chose?
Eh bien, mes parents, c'est les seuls qui ont fait autre chose. Voilà.
Ah,
bon, surtout mon père. Mais autrement, voilà, quoi. Je veux dire, ça fait travailler des beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, indirectement et directement, on peut dire aussi. Après, voilà, quoi. Je veux dire, une mine qui ferme, ça fait mal au cœur, quoi.
Quel est votre plaisir dans votre travail?
Le plaisir? Bah c'est déjà, c'est, avant tout, c'est pas un plaisir, c'est un travail. C'est quelque chose qui nous fait gagner notre vie pour élever nos familles. Donc en perdant ce travail, voilà quoi, je veux dire, c'est des gens, ça va remonter le on va dire même dans notre commune, le taux du chômage quoi. Donc c'est quelque chose, on va dire qu'on est complètement contre de cette fermeture, malgré même les années passées, la dureté du métier. Voilà, on est contre ce plan de fermeture des ardoisiens.
Et il s'appelle comment votre village ?
Alors la mine, c'est Trélazé, à Trélazé, donc juste à côté en périphérie d'Angers, à 2 km d'Angers, c'est pratiquement à touche-touche d'Angers, quoi, comme on dit. Les mines ont toujours existé sur Angers, c'était le premier bassin ardoisier, donc si vous voyez, regardez les toits de Paris, ils sont tous couverts en ardoise, donc c'est l'ardoise du bassin angevin, donc de chez nous. Donc il faut savoir que dans les années 80, il y avait 4, 5, 6, 7 mines. Sur ces 7 mines, tout ont fermé régulièrement depuis les années 80. Et maintenant, on se retrouve avec la dernière mine qui risque de fermer à la fin du mois de mars.
Mais alors, si vous pensez que vous pouvez encore travailler, pourquoi votre patron il veut fermer la mine ?
On sait très bien que le groupe Imerys, c'est un groupe mondial, un groupe France, c'était celui qui détenait, on va dire, la plupart des matériaux de construction. On sait que les matériaux de construction, vu la construction, c'est un marché qui est en baisse. Donc, ils gagnent beaucoup moins d'argent avec nous. Et donc, ils se séparent de ces...
Il en gagne un peu, mais pas assez, c'est ça ?
Il en gagne beaucoup, mais pas avec nous. On va dire on est là peut-être la partie... S'ils avaient fait les investissements en temps voulu, on gagnerait de l'argent, on serait rentable. Parce qu'on a un marché pour nos produits. Maintenant, on va être obligé de... Les monuments historiques vont être, dont les monuments de Paris, le Châtelet, les châteaux, vont être couverts en ardoise étrangère. Et c'est une aberration, quoi.
Et quand vous descendez dans la mine, c'est comme dans les films, quoi. C'est quand on voit Germinal, par exemple.
Ouais, faut pas associer forcément maintenant la mine de maintenant à Germinal. C'est un peu exagéré. Il y a des conditions de travail pénibles. C'est pour ça qu'on a encore le régime spécifique, le régime des retraites spécifiques mine. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait 30 ans d'ardoisière, dont 20 ans de fond, travail au fond, peut partir à une retraite à 50 ans à taux plein. Un temps de cochon, c'est terminé, mais on se retrouve demain.
Vous avez dit cochon ?
J'ai dit du cochon et nous on a des amis, c'est des cochons ici. Et nos patrons, c'est des cochons aussi.
À suivre, Frédéric Lodéon, très bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Dominique Delarroix.
Le voyage est terminé pour les deux adolescents toulousains qui avaient quitté l'école pour aller faire la guerre en Syrie. L'un, âgé de 16 ans, est rentré hier et le père de l'autre, qui a 15 ans, est parti le chercher en Turquie. Les deux garçons, en seconde au lycée toulousain des Arènes, s'étaient envolés le 6 janvier pour la Turquie avec l'intention de rejoindre en Syrie la cohorte de jeunes Français qui combattent aux côtés des djihadistes. Une enquête a été ouverte sur le financement d'un des meetings de Nicolas Sarkozy, des meetings épinglés par le Conseil constitutionnel pour justifier le rejet de son compte de la campagne 2012. Cette enquête a été lancée début octobre et fait suite à un courrier adressé l'été dernier par le militant écologiste grenoblois Raymond Avrillier qui dénonçait de possibles faits de détournement de fonds publics. Le meeting au cœur de l'enquête a eu lieu le 1er décembre 2011 à Toulon, 5 mois avant la présidentielle. À cette époque, Nicolas Sarkozy ne briguait pas encore officiellement un second mandat. François Hollande est en Turquie. Il est arrivé cet après-midi, une visite d'État de 2 jours au cours de laquelle le chef de l'État va tenter de tourner la page de relations bilatérales houleuses et de relancer les échanges économiques des années difficiles sous le quinquennat de son prédécesseur, farouchement hostile à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. En Égypte, le commandement de l'armée a donné mandat à son chef, le désormais maréchal Abdel Fattah al-Sissi, mandat pour se présenter à la présidentielle. Juste avant cela, le vice-premier ministre, le nouvel homme fort du pays, avait été promu au plus haut grade de l'armée égyptienne. Abdel Fattah al-Sissi devrait annoncer sous peu sa candidature. Il est soupçonné du viol de la mère de Fiona, 1 an avant le meurtre de la fillette à Clermont-Ferrand. Cet homme de 35 ans, visé par un mandat d'arrêt international pour 2 viols, dont celui de Cécile Bourgeon en 2012, a été interpellé vendredi soir à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Il revenait d'Algérie. Il a aussitôt été mis en examen et écroué. Les enquêteurs chargés de la distribution désespération de Fiona, l'avait un temps soupçonné d'avoir enlevé la fillette de 5 ans pour se venger de sa mère, mais il avait été rapidement disculpé. La foudre s'est abattue ce matin sur une grue de chantier à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Une quarantaine d'ouvriers travaillaient sur place à ce moment-là. 4 d'entre eux ont été blessés, dont 2 très sérieusement. Ils ont été électrisés, brûlés et traumatisés, indiquent les pompiers. Un accident plutôt rare, d'autant qu'il n'était pas prévu d'orage ce matin. Il y a eu 2 coups de foudre très brefs et c'est tout. La liste des skieurs français pour Sochi est arrêtée. 9 skieurs et skieuses sont venus compléter aujourd'hui la première sélection établie mercredi dernier pour le ski alpin. Parmi eux, le slalomeur Julien Liseroux, mais Gauthier de Tessières a été écarté par manque de résultats. Le Dauphinois jouait sa dernière carte hier à Kitzbühel, mais il a terminé seulement 48e.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do au Studio 105, Bill Callahan et sa voix de crooner country inondée de blues.
Well, the only words I've said today are beer.
Cascadeur, humain après tout. Une invitation dans le royaume du prince Miaou.
Live Me Do.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Et il est 16h04, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Dominique Delaroy, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir et le très grand honneur de recevoir Bertrand Chamaillou, fameux pianiste. Bonjour Bertrand.
Bonjour Frédéric.
C'est pour Schubert. On vient là pour Schubert parce qu'on l'aime d'abord, sa douceur, son inspiration, quelquefois extrêmement développée, son sens de la mélodie. Et puis voilà, on a une tendresse pour Schubert. Ce n'est pas un combattant, il n'est pas comme Beethoven par exemple, ce n'est pas un lutteur. Il est tout doux, c'est comme un petit frère qu'on a envie de protéger. Moi je sens ça comme ça.
A priori, oui.
A priori.
Toujours un peu d'ambiguïté dans tout ça, mais...
Avec des passages quand même telluriques, des passages assez sombres, assez violents, une sorte de révolte. Alors, on vous a entendu ce matin chez Dédé, André Manoukian, vous avez joué en direct, c'était très beau d'ailleurs, un extrait de ce Merci. Disque, on va y arriver tout à l'heure. Et donc Schubert, quelquefois revu par Franz Liszt, donc c'est des pièces et qui ne sont pas toujours très pianistiques. Lui-même, d'ailleurs, avait du mal à jouer sa propre fantaisie du voyageur, Wanderer Fantasy. Hein. Et alors, c'est vraiment difficile à ce point-là, pour que Schubert ait renoncer en pleine Schubertiade, en pleine réunion amicale autour de ses œuvres.
C'est une pièce très difficile. Après, c'est pas forcément injouable, mais je pense que Schubert n'était pas forcément un très grand pianiste.
Alors, il a dit.
On peut pas tout être.
On peut pas, voilà, un génie. Et puis surtout quand on a vécu seulement 31 ans, c'était pas la peine de faire des gammes pendant des heures et des heures.
Être un des plus grands compositeurs de l'histoire et le plus grand virtuose, forcément.
Oui, c'était un peu inutile, effectivement. Donc, il a dit lui-même du final qu'on va entendre maintenant, c'est au diable de jouer cette pacotille. Il y a 2 choses. Il considère sa musique comme diabolique, d'un côté, pour la difficulté, et puis cette pacotille, il sous-estime un peu son travail aussi. Alors, pas vous, vous avez consacré tout ce disque.
Tout ce disque à Schubert, cette fantaisie du voyageur, c'est la première chose que j'ai connue quand j'étais enfant de Schubert. Mmh. Et moi, quand j'étais petit, j'étais un fanatique de Beethoven. Et justement, vous disiez, côté tout doux, cette fantaisie, elle regarde vraiment vers Beethoven, mmh. vers le côté très héroïque, très tellurique, très énergique. Schubert était une sorte de cadet de Beethoven, il était complètement fasciné par le génie de Beethoven et ça s'entend dans cette musique. Et c'est peut-être pas un hasard que ce soit ça qui m'est d'abord plu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai voulu consacrer un disque et tout naturellement c'est la première pièce, ça a été la première pierre de ce programme.
Bon, on écoute le final de cette Wanderer Fantasie.